Salut! Bienvenue dans notre podcast de l'Art du Boire, un récit d'allaitement. Je m'appelle Janie et je suis la cofondatrice de l'Art du Boire, une compagnie qui offre aux mères allaitantes des sous-vêtements confortables, efficaces et magnifiques. Ce podcast a pour but de te rassurer, de te partager des histoires des mères qui sont passées par l'allaitement, de normaliser toutes les difficultés que tu pourrais avoir ou que tu as eues. J'espère que ce podcast pourra te soutenir, te faire rire, même peut-être pleurer, mais qui pourra te faire du bien. Bonne écoute! Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, un récit d'allaitement de l'art du boire. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la grande nouvelle que j'ai annoncée vendredi dernier sur nos réseaux sociaux en live. J'ai annoncé que j'avais créé un nouveau groupe de soutien. Ben, en fait, un groupe de mamans, si on peut dire ça comme ça, de mamans, mais de femmes et puissantes. Ce groupe s'appelle « Femmes et puissantes » pour s'entraider et créer du beau pour les mamans. Ce groupe va être là pour toi si tu as des questions sur l'allaitement, sur les enfants ou sur toi la femme. Ça se veut aussi un groupe qui va te faire sentir que tu n'es pas seule, un groupe qui va te faire sentir que tu es soutenue. Bref, je veux créer une belle communauté de femmes qui s'entraident, qui s'aident, qui se répondent avec bienveillance. C'est mon but de ce groupe. Mais en plus, je veux avoir vos opinions sur tout ce qui est sur les nouveaux produits de l'Art du Boire. Sur les nouvelles couleurs que nous allons avoir. Donc, tu auras tous les primeurs de l'Art du Boire. Tu vas pouvoir aussi donner ton opinion sur la prochaine collection, sur les nouveaux produits que nous allons vous proposer. Tu pourras même proposer des produits. Bref, on veut votre opinion aussi sur comment vous croyez que ce serait le mieux, puisqu'on est rendu deux mamans qui n'allaitent plus. En tête de la compagnie, dans le fond, puisque j'allais plus mon garçon. Donc, je veux avoir encore l'opinion de mamans qui allaitent ou des mamans qui ont allaité, qui ont terminé d'allaiter, mais quand même, je veux vos opinions, je veux tout savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est pour vous qu'on fait ces produits-là, et sans vous, ben, on peut pas créer ces produits-là. Bref, je t'invite à aller te rejoindre à ce groupe. Je vais laisser le lien en description, bien sûr, pour ce merveilleux groupe. Je sens que ça va être vraiment le fun. Il va y avoir une belle magie dans ce groupe. Si tu as envie de faire partie de ce groupe, joins-toi à nous. Tu es toujours la bienvenue. Et donc, voilà pour ça. Aujourd'hui, je reçois Caroline, éducatrice périnatale, qui vient nous parler de son expérience de ses 4 enfants. C'est une ancienne sage-femme aussi, qui ne pratique plus, mais depuis un an, si je ne me trompe pas. Elle va nous laisser le plaisir de nous raconter ce qu'elle fait, de se présenter. Donc, je ne vous en dis pas plus. C'est un magnifique épisode, à mon avis. J'ai adoré parler avec Caroline, comme j'adore parler avec tout le monde, mais ça a été vraiment spécial, fait que je vous laisse en profiter. Bonne écoute! Allô Caroline, ça va bien?
Allô Janie, oui ça va bien toi?
Oui, ça va super bien, merci de participer à ce podcast. Merci
pour l'invitation.
Ça me fait plaisir. On va commencer avec la toute première question. Qui est Caroline? Qui est cette femme?
Oui, moi en fait j'ai un parcours de sage-femme. Pendant 11 ans, j'ai été sage-femme ici au Québec. Puis dans la dernière année, là, pour des raisons entre autres de conciliation travail-famille, parce que j'ai aussi 4 enfants, j'ai quitté ma profession là pour l'instant. C'est quand même intense d'être sage-femme, ça demande une grande responsabilité, beaucoup de garde. Puis fait que présentement, c'était pas compatible avec ma vie de famille. Donc, j'ai cherché à utiliser mes compétences autrement, puis à me réinventer. Donc, j'ai mis sur pied là mon projet en tant qu'éducatrice périnatale. Au Québec, on peut pas légalement être sage-femme là, au privé. Donc, j'utilise le titre d'éducatrice périnatale. Donc, j'accompagne les familles en prénatal, en postnatal, que ce soit pour de la préparation à la naissance, du soutien en allaitement, des relevailles. Puis, j'ai travaillé aussi à mettre sur pied un service de relevailles dans ma région, au centre du Québec.
Qu'est-ce que c'est exactement ça?
Un service de relevaille, c'est pour aller aider les familles à domicile, soit quand la femme elle est enceinte, mettons qu'elle est au repos pendant sa grossesse, qu'elle a une grossesse difficile, qu'elle a besoin de soutien, ou en postnatal, nous on vise les familles qui ont un bébé entre 0 et 9 mois. Donc, c'est d'aller amener un soutien bienveillant, du support émotionnel, certaines connaissances, soutien à l'allaitement, mais aussi de l'aide très concrète, là, un peu de ménage, un peu de popote, s'occuper du plus vieux, s'occuper du bébé pour que les parents aient faire une sieste, par exemple. Donc, le genre de service que j'aurais aimé pouvoir bénéficier, moi aussi.
Wow! C'est vraiment un beau service!
Oui, donc c'est avec le centre périnatal Concevoir, là. Donc, je travaille sur deux volets présentement, là, le service de relevaille, puis ma pratique privée là, de service aux familles comme éducatrice périnatale. Là. C'est super stimulant et passionnant.
Comme ben oui, c'est vraiment cool pour elle. Mm. Tu viens de chercher une autre facette de la sage-femme.
Oui, c'est sûr que j'ai la même philosophie que lorsque j'étais sage-femme, les mêmes valeurs du lien de confiance, du choix éclairé, de l'empowerment. Mm-hmm. C'est sûr que c'est ancré en moi, donc ça fait partie de ma façon d'être et d'accompagner les familles.
Ah, mm. Oh, c'est super beau. C'est sûr que je vais laisser aussi toutes tes informations sur ta page. T'as-tu une page web?
Un site web, carolineauclair.com, c'est facile à retenir. Parfait. Un tout nouveau site web que je suis très fière de présenter. Fait que c'est sûr qu'on peut y trouver une plus grande description de mes services. Puis j'ai mon infolettre aussi, là, qui est ma bébé infolettre qui vient juste de voir le jour. Donc,
C'est parfait. Fait que c'est sûr que je vais laisser toutes les informations dans la description pour les gens qui puissent aller voir, te voir et te suivre aussi sur ton compte Instagram.
Instagram et Facebook, les deux. Ah, ouais.
Fait que c'est sûr que je laisse tout ça dans la description pour les gens. Puis sinon, qui d'autre est cette femme-là? Elle a quatre enfants?
Oui, c'est ça, je suis une maman, c'est quand même une part très importante de ma vie. Donc oui, mes décisions professionnelles ont été vraiment centrées sur la famille. J'ai quatre enfants quand même espacés en âge, donc j'ai une grande qui a 11 ans, un garçon de 7 ans, un garçon de 4 ans, puis un autre garçon de 18 mois.
Wow!
J'ai toutes sortes d'âges, juste l'adolescence que je touche pas encore, mais ça s'en vient, je sens.
Oui, ça s'en vient, là!
Ouais! Puis quatre enfants que j'ai allaités aussi, là, donc avec j'ai vécu toutes sortes d'expériences. Puis je réalisais en me préparant tout à l'heure que, dans le fond, ça fait comme 11 ans que j'allaite ou que je suis enceinte. Ouais. C'est ça, je suis bec dedans depuis.
Est-ce que tu as allaité pendant 11 ans en continu ou...
Est-ce que j'ai eu des pauses pendant mes grossesses, une partie de mes grossesses, dans le fond. Fait que je peux quand pas même en continu, mais pas loin.
Mais quand même, là, c'est fou. Est-ce que... Fait toi, tu as accouché en maison. Non, c'est ça, tu me disais, tu n'étais pas en maison de naissance, mais c'est à la maison.
En fait, ma première, j'ai accouché en maison de naissance. OK. À ce moment-là, j'étais dans un appartement. J'étais une jeune sage-femme qui venait de graduer dans l'année précédente. J'étais en appartement, dans un appartement vraiment pas très intime. Puis, bref, je l'ai senti comme ça à ce moment-là. Puis mes autres sont nés à domicile. Ouais.
Oh, wow! Puis, c'est tellement...
Je peux commencer avec ma fille, dans le fond.
Ben oui! Ah, c'est tellement cool, pour vrai. Puis, dans le fond, après, on va commencer avec ta première, on va commencer avec ton premier enfant. Mm-hmm. C'est ta fille, c'est ça que tu disais?
Oui, ma grande fille.
Ta fille de, comment qu'elle s'appelle?
Elle s'appelle Flavie, puis ça lui va très bien, elle est pleine de vie. Ça veut pas de le dire.
J'adore le nom, je trouve ça super beau.
Ses parents, je trouve, des fois, les prénoms, là. Donc,
mais oui, vraiment, là.
Mais leur nom, ouais.
Comment ça a été? Est-ce que... ça a bien été l'accouchement?
Oui, une belle naissance, quand même rapide pour un premier. J'ai eu par contre des défis de début d'allaitement.
Oui!
J'avais une toute petite bouche. Fait que j'étais sage-femme à ce moment-là. J'avais beaucoup de connaissances puis d'expérience de soutien en allaitement. Mais moi, c'était la première fois que j'allaitais, bien sûr.
Oui.
Puis j'y ai goûté un peu, je dirais, les 6 premières semaines, là, j'ai eu vraiment de la douleur, des blessures.
Okay.
J'ai demandé quand même pas mal de persévérance parce que sa prise du sein n'était pas optimale malgré, j'ai consulté en clinique d'allaitement, une consultante en lactation, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses. On se levait, mon chum puis moi, la nuit, puis je pleurais parce que ça faisait mal, puis je savais plus quoi faire. Puis bref, fait que même si on est sage-femme, santé, quand ça nous arrive, nous, là, ça, c'est ça, on enlève le chapeau de professionnel, là, puis on le vit intensément comme maman. Là.
Ben oui, c'est normal. Est-ce que, comment tu te sentais, tu sais, justement, de savoir, tu dis, ah, je suis sage-femme, je connais ça. Puis là, j'ai des problèmes, puis je sais pas comment les régler. Ben, je sais peut-être comment les régler, mais on dirait que ça se règle pas. Comment tu te sentais face à ça?
C'est un peu des montagnes russes d'émotions. Je pense que vu que j'étais tellement convaincue, je voulais tellement allaiter, c'est sûr que ça a été une force pour moi pour m'encourager à continuer, mais c'est sûr qu'il y a des moments où j'étais frustrée que ça marche pas, j'étais découragée, ou tu sais, on est bonnes les mères aussi, hein, pour se taper dessus un peu, puis j'essayais donc bien de trouver qu'est-ce que je faisais de pas correct, puis... Fait que c'est ça, ça a été ma première expérience, mais un coup, ça a été bien parti, là, après 6 semaines, quand finalement ça a guéri, puis que ça s'est placé, puis que la prise du sein a été mieux. Après ça, ça a été un charme, sincèrement, comme allaitement par la suite, puis moi, j'ai adoré allaiter, là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je veux dire j'aime parce que j'allaite encore, là, mais je trouve que c'est des... Je découvrais un contact unique avec mon bébé, un lien particulier. Puis moi, personnellement, l'allaitement, c'est ma réponse à tout avec les enfants. Là. Ça conforte quand il y a un bobo, ça répond à ben oui, la faim, mais l'endormissement, ça répond à tout pour moi, je trouve, l'allaitement. Puis j'allaite mes enfants quand même longtemps d'habitude. Là. Ma fille, elle a été allaitée 3 ans et 3 mois. Je dis longtemps parce que c'est pas une majorité de femmes au Québec actuellement qui allaitent longtemps comme ça, mais personnellement, des fois je préfère utiliser le terme d'allaitement non écourté. Là.
Oui.
Bon, je le nomme comme ça. Mais c'est ça, j'ai vraiment aimé l'expérience d'allaitement. Puis
comment ça s'est
terminé?
C'est ça? Tu lis dans mes pensées.
Ça a été difficile par contre. J'ai arrêté cet allaitement-là parce que j'étais enceinte de mon deuxième. Puis à ce moment-là, j'aurais souhaité vivre l'allaitement en tandem. C'était tellement douloureux. C'était redevenu douloureux avec la grossesse. C'est quelque chose qu'on voit quand même souvent. Là. Les mamelons sont plus sensibles. Puis,
Oui, je l'ai expérimenté.
C'est ça, je me disais, tu l'avais vécu, là, la production de graisse, tout ça. Fait que ça devenait juste intolérable pour moi. Il y a des femmes qui vont passer par-dessus ça, mais pour moi, c'était vraiment trop inconfortable. Et puis on dirait que ma fille avait perdu la façon de téter. Elle plaçait plus bien que sa bouche. Puis je me souviens d'une fois qu'on pleurait toutes les deux, puis j'essayais de lui dire qu'il fallait qu'elle place sa bouche autrement, puis elle, était à 3 ans, incapable de parler puis de nommer les choses, qui disait mais j'essaie de bien placer ma bouche. Puis ça a été déchirant, ça a été comme un gros deuil, autant pour elle que pour moi, j'ai l'impression, cette fin d'allaitement un peu forcée au final.
Est-ce que c'est comme tu as décidé, c'était terminé à un moment donné, ou tu es allée graduellement?
Ben j'avais réduit un peu, mais à un moment donné, quand c'était trop douloureux, puis que je voyais que même si j'essayais de lui expliquer comment placer sa bouche ou tout ça, que ça fonctionnait pas, c'était juste plus possible de faire une tétée, là. T'sais, elle aussi, je pense qu'elle se sentait mal parce qu'elle savait que ça me faisait mal. Puis bref, on était dans une dynamique vraiment pas le fun, là, fait que ça s'est arrêté un peu plus abruptement. Puis j'ai mis un certain temps là à vivre ce deuil-là. Puis elle aussi, je pense. Portait un certain temps. Là, ça...
Est-ce qu'elle leur demandait quand même le lait malgré tout? Ou...
Il est arrivé, et là, c'est loin dans ma mémoire.
Oui, c'est ça! Hein?
Il me semble que c'était arrivé plus tard, après la naissance de son petit frère, mais que... Est-ce que je l'ai essayé une fois, puis que finalement, ça s'est arrêté là? Je me souviens plus exactement, là. Mais bon...
Oui, c'est ça.
Plus tard, ça
fait 11 ans presque. Ben, moins qu'on l'a, mais...
Ouais, un peu moins, là, 8 ans.
9 ans, mettons, là. Quand même.
Mais c'est ça, ça a été une fin d'allaitement plus difficile,
Plus heureuse que...
Là, j'étais enceinte de mon deuxième à ce moment-là. Ouais. Puis moi, j'ai des grossesses difficiles.
OK.
les grossesses vont bien d'un point de vue obstétrical, médical, mais j'ai énormément de malaise. À toutes mes grossesses, là, j'ai eu des nausées du début à la fin. C'est pas compliqué. Là, là,
quatre grossesses comme ça,
et malgré la médication, malgré tout ce que j'ai pu essayer de médecine alternative, les hormones m'affectent énormément, puis je suis nauséeuse du début à la fin. Fait que ça aussi, ça a un impact là, dans ma décision d'arrêter l'allaitement à un moment donné en cours de grossesse.
C'est sûr.
Parce que c'est juste m'endurer moi-même, c'était pas facile, là, parfois.
Ben oui!
Donc, mais l'allaitement, j'aime ça, par contre. Fait que j'étais bien contente de réaccoucher à mon deuxième, puis de recommencer l'allaitement, c'est ça, d'être soulagée des nausées. Puis, mon deuxième lui est né à la maison, avec ma fille qui était présente. Puis ça a été un super moment avec mes sages-femmes, bien sûr, qui étaient mes collègues.
C'est fou, ça! Je sors de l'allaitement, là, mais comment c'est, tu sais, des collègues avec toi qui t'accouchent, tu dois être plus en confiance, justement, tu sais c'est quoi leur faille des fois, fait que...
J'étais à 100% en confiance avec mes collègues. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu deux lieux de travail parce que je suis déménagée en cours de route. Fait que j'ai vécu d'accoucher avec mes collègues à un endroit, puis mes collègues à un autre endroit. Puis, dans tous les cas, j'étais super à l'aise. Tu sais, je suis peut-être pas une femme non plus, super pudique. Puis, je suis facilement en confiance avec les gens. Puis non, moi, ça me sécurisait. Qu'elle soit là, puis c'est vraiment des belles expériences pour moi, puis c'est, tu sais, j'ai été moi aussi à l'accouchement de certaines collègues, il y a quelque chose de vraiment particulier.
Ben oui, ça doit être un lien tellement spécial que vous avez entre vous, justement, à cause de ça, là.
C'est sûr qu'on passe, tu sais, des jours, des nuits ensemble dans toutes sortes de conditions entre sages-femmes, là, les liens sont forts quand même, donc non, c'est des très belles expériences pour moi, il n'y avait pas de malaise du tout, de gêne, là, que mes collègues soient présentes, là.
Ah, c'est super! J'ai un petit peu bifurqué parce que je prends le bon, là, dans le sens que j'ai jamais eu de sage-femme encore dans mon podcast, donc je prends le comment on dit
ça? Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir, je suis habituée de parler, même si j'ai plus le titre de sage-femme, je suis habituée de parler de cette profession-là qui est très chère à mon cœur.
C'est sûr! Tu as accouché de ton deuxième à la maison.
Oui, et ça a été un allaitement parfait, cet allaitement-là.
Ah ouais?
De la première tétée à la dernière. Deuxième, là, c'est un bébé, des fois on dit bébé facile, moi j'aime mieux dire mon bébé sourire.
Oui.
Ça a été simple, c'est un enfant pas compliqué dans la vie. Il s'appelle Jasmin.
Oui, c'est ça.
Très doux. Si ça lui va bien, comme nom, d'ailleurs.
Tu choisis bien les enfants, l'énergie des enfants avec leur nom.
Mais, on va faire une parenthèse, mais moi, j'ai l'impression que c'est mes enfants, à chaque fois qu'ils m'ont soufflé le prénom que je voulais avoir, soit pendant la grossesse ou juste après la naissance, là. Des fois, c'est des prénoms que j'avais même pas considérés dans la vie, comme Flavie, par exemple, puis qui me vient pendant la grossesse, puis qu'il y a juste lui qui existe comme prénom.
Ah, je comprends.
Donc, mon chum puis moi, on a toujours été beaucoup à l'écoute de ça, fait que c'est ce qui s'est produit pour mes enfants.
Wow, c'est parfait.
C'était vraiment un bel allaitement pendant 3 ans environ. Puis
mais dans comment ça a été? Là, je reviens juste au début, parce que, tu sais, t'as un bébé naissant plus un deuxième enfant. Comment c'était ça, la gestion d'allaiter un enfant plus de... gérer l'autre enfant à côté qui sûrement a besoin de d'attention de maman aussi, là?
Ben là, avec mon œil de maman de 4 enfants, je dirais que c'était plus facile parce que on était 2 parents, 2 enfants. Puis ma grande était très prête à être aussi dans sa vie, même encore aujourd'hui, je suis sûre qu'elle dirait qu'elle préférait être enfant unique parce que elle aimerait ça nous avoir pour elle tout seul. Bon. Mais... elle a vraiment la fibre maternelle avec ses petits frères. Tu sais, c'est pas le genre d'enfant. C'est sûr qu'elle avait déjà 3 ans et demi à ce moment-là, mais j'ai jamais eu à intervenir parce qu'elle était rough avec son bébé frère. Mm-hmm. Au contraire, là. Elle était, tu sais, à la limite aidante, puis de plus en plus en vieillissant avec ses petits frères, là. Mais donc, ça s'est relativement bien passé. Puis c'est sûr que mon chum, il prend toujours son congé paternité, fait qu'il est présent, il est impliqué, donc ça, il pouvait s'occuper d'elle, aller jouer au parc avec elle pendant que je me pose avec le bébé, ou
Ça aide, ça fait bien passer. Est-ce que tu as eu des moments plus difficiles dans le sens que, tu sais, émotionnellement, là, vu que l'allaitement est super bien, mais émotionnellement, est-ce que tu en avais des moments quand même, tu sais, quand on parle, des fois, quand j'entends parler des allaitements faciles, est-ce que c'était tout rose tout le temps?
Ben, pas parfaitement, parce que j'ai vécu quelque chose de spécial à cette qui a commencé cet allaitement-là, puis qu'on parle pas assez souvent, puis d'ailleurs, je trouvais important de nommer aujourd'hui, c'est le réflexe d'éjection dysphorique.
OK.
En anglais, à l'abréviation, on appelle ça DMER, D-M-E-R.
OK.
C'est vraiment quelque chose d'hormonal, puis que j'ai pas tant vécu à ma fille. Habituellement, c'est là comme à chaque allaitement, mais à partir de mon deuxième allaitement, ça s'est présenté dès les premiers jours. Ça fait en sorte que quand on a le réflexe d'éjection, tu sais, au début, le bébé fait quelques suctions, puis à un moment donné, on sent que ça picote, puis là, le lait se met à couler. Ou si on n'a pas de bébé en avant de nous, ça revole. Donc, à ce moment-là, les quelques secondes ou la minute que ça dure, le réflexe d'éjection, chez les femmes qui ont un réflexe d'éjection dysphorique, c'est comme si les hormones de bien-être et de bonheur, comme la dopamine, descendent trop bas, le niveau descend trop bas pendant cette durée-là. Puis ça peut faire des pensées plus sombres, ça peut faire comme un gros sentiment, comme si pendant une minute, là, t'étais en dépression majeure, là. Ça peut faire de l'anxiété. Moi, ça me faisait beaucoup des pensées anxieuses, là, comme extrêmes pendant une minute, là. C'est pas très long, mais c'est assez... mettons que j'allaitais coucher le soir, que c'était tout silencieux dans mon lit, mais pendant cette période-là, là, ça peut avoir l'air un peu étrange à dire, là, mais je suis plus gênée d'en parler. Je peux avoir l'impression, pendant les réflexes d'éjection, que tout à coup, il y a quelqu'un qui arrivait derrière moi, tu sais, comme pour m'attaquer ou quelque chose. Ça peut être assez extrême dans ce cas-là. Puis, tu sais, j'ai rencontré dans ma pratique sage-femme des femmes qui arrêtaient d'allaiter à cause de ça, sans savoir pourquoi ils vivaient ça, mais que je crois qu'à l'été, il y avait des pensées négatives. Ça peut être de tout à coup se dire « Ah, ça n'a pas de sens, je suis tellement pas une bonne mère, tout traîne dans la maison, c'est l'enfer, j'y arriverai pas. » Tu sais, des pensées comme ça. Ça peut avoir... Il y en a que ça va être du dégoût, même de la nausée forte. Ça peut être... bref, toutes sortes de symptômes, mais négatifs pendant la durée du réflexe d'éjection.
OK, puis ça dure comme une minute, mais après ça, ça disparaît, mais sûrement comme la femme se demande pourquoi là, ces pensées-là après coup, là.
Oui, ça peut vraiment bouleverser, puis c'est pas le sujet qu'on parle beaucoup.
Ben, moi, tu vois, c'est la première fois que j'en entends parler.
Oui, c'est ça. Il y a de la recherche qui se fait un peu sur le sujet, là, entre autres, il y a une femme aux États-Unis, Alia Macrina, je pense son nom, qui fait de la recherche beaucoup sur ce sujet-là, c'est son domaine. Moi, j'ai cherché, je ne connaissais pas à ce moment-là, quand je l'ai vécu, ce sujet-là, même comme sage-femme, j'en avais jamais entendu parler dans mes formations, dans mon expérience. Fait que je me suis éduquée sur le sujet en le vivant moi-même. Ça a été comme un soulagement, en fait, d'apprendre que ça existait, que ça a un nom, puis que je suis pas folle.
Ben oui, c'est ça.
Après juste ça,
de se rassurer, de se dire comme, OK, je suis pas normale. C'est vraiment comme hormonal tout ce qui se passe, là.
Oui. Puis après ça, dans ma pratique, j'ai rencontré quelques reprises des femmes qui l'ont vécu, ou comme maman, ça m'est arrivé de rencontrer une autre femme aussi qui l'a vécu, puis... C'est, à chaque fois, c'est comme un soulagement là, de se dire « OK, je ne suis pas toute seule, ça existe. » Il n'y a pas, de malheureusement, de remède miracle, par contre. Je pense que ça mérite d'être étudié davantage. Ce que j'ai trouvé, moi, comme truc pour aider davantage, c'est de me distraire à ce moment-là. Donc, avoir un livre à côté de moi, pitonner sur mon téléphone, puis lire d'autres choses pendant ce temps-là, c'est... Surtout pendant le moment du réflexe d'éjection, là, de penser à autre chose. Il y en a que ça va être de prendre un verre d'eau froide. Il y a toutes sortes de trucs comme ça. C'est sûr que le calme autour, ça aide. J'ai connu une femme qui, elle, allait allaiter dans un endroit à l'extérieur qu'elle trouvait beau. Puis de voir des belles fleurs, puis tout ça, ça l'aidait à moins vivre ce sentiment-là. Moi, je sais que si j'allaitais, puis que j'avais les enfants qui se chicanaient autour, c'était tout bruyant, c'est... Des fois, je pognais les nerfs, là. J'étais comme, je me sentais agressée par ça pendant cette minute-là intense, là, où est-ce que c'était juste trop, là.
Ouais.
Donc, le sachant.
Oui, c'est ça.
J'ai remarqué que ça se produit un peu plus le soir, justement, quand il fait plus sombre pour moi. Donc, le sachant, ben, je pouvais soit allaiter dans un coin plus tranquille ou le nommer à mon chum pour qu'il garde les enfants tranquilles. Je m'installe pour allaiter, là. Oui. Le coucher bien installé, puis c'était commencé, c'était correct, là. Donc, ouais, wow. Je suis contente d'amener comme sujet.
Mais oui, vraiment. Puis comment tu as découvert ça, mettons?
J'ai commencé par faire des recherches okay. sur Internet. ouais, c'est ça, c'est Google m'a aidé. Après ça, ben, je veux pas, mon intérêt de sage-femme était là aussi, là, d'en apprendre plus. Fait que je m'étais formée un peu sur le sujet. Puis, tu vois, dans les dernières années comme sage-femme, j'en ai entendu parler un petit peu plus, là, que ce soit dans une formation ou en partage de cas. Moi, c'est sûr que quand j'ai eu l'information, j'ai amené la situation à mes collègues. Pour leur apprendre c'était quoi, celles qu'ils ne savaient pas, puis qu'on soit toutes mieux outillées pour aider les femmes qui le vivent. Là.
Oui, oui. Mm. Parce que sûrement qu'il y a des femmes aussi qui doivent le vivre puis qui ne doivent pas en parler parce qu'ils se disent « Ah, oh, c'est dans ma tête, c'est pas normal, tu sais, de le vivre. » Tu sais, d'en parler justement, tu sais, là, on en parle au podcast, mais comme tu vois, tu sais, je suis rendue, je pense, à ma 18e épisode, okay. Puis on n'en a jamais parlé, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça super intéressant, justement, de pouvoir en parler, puis de parler de ce sujet-là, parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup de femmes qui doivent le vivre sans le savoir, tu sais.
J'ai pas de statistiques, je me considère pas comme une experte du sujet,
non.
Mais je trouve ça important d'ouvrir une petite porte dans l'esprit des gens pour que s'il y a des femmes qui le vivent, tu sais, qui écoutent le podcast, puis qui commencent leur allaitement, puis qui le vivent, ben, qui en parlent à leurs professionnels de la santé ou qui regardent qu'est-ce qui pourrait les aider. C'est quand même vivable au final quand on met les choses en place pour que, tu sais, apaiser les symptômes. Oui. Puis ça se place un peu au fil de l'allaitement aussi. Là.
Okay.
Les premières semaines, moi, c'était vraiment plus intense.
Justement, avec tout ce que les hormones déjà qu'on a, on passe partout, ça doit.
Oui, puis au fil des mois, tranquillement, ça s'estompe, puis c'est moins présent. Okay. Là, donc, c'est pas nécessairement toute la durée de l'allaitement. En même temps, je veux pas parler pour toutes les femmes
qui ont
le réflexe d'éjection dysphorique. Là, c'est possible qu'il y en ait qui le vivent autrement. Là, mais il faut quand même être alerte. Il y en a qui pourraient avoir, tu sais, même des idées noires là, avec ce réflexe-là. Fait que c'est quand même à prendre au sérieux.
Ben oui! Mais au moins, c'est ça, tu sais, juste de le savoir que ça existe, des fois, ça fait comme, OK, on dirait quand t'es consciente de savoir quelque chose, c'est comme moins pire, peut-être, tu sais, t'es comme moi, plus capable de...
Les babies, là, les bébés aux besoins intenses, là, le jour où t'as un bébé intense, puis que t'apprends qu'il existe ça, les bébés aux besoins intenses, là, je trouve que ça déculpabilise tellement de dire que c'est une part qui appartient à mon bébé, c'est pas juste moi.
C'est tellement vrai, là. Oh, ben wow. Merci d'en parler puis d'amener ce sujet-là. Je trouve ça le fun, justement, d'avoir des sujets très différents les uns de les autres, mais que ça vient aider les femmes, tu sais. Puis c'est un peu ça le but du podcast.
Oui, oui, c'est tellement important parce que, là, si je fais ma minute féministe, là, mais on n'a pas baigné dans une culture d'allaitement tant que ça, mais tu sais, peut-être dans ta situation, peut-être que ta mère t'a allaité, des choses comme ça, mais pour la plupart d'entre nous, les générations auparavant se sont fait couper complètement de leur, de la culture de l'allaitement, des informations, puis des trucs et conseils que la famille pouvait avoir, parce que pendant un certain nombre d'années, on a dit aux femmes que finalement, c'était mieux de donner de la préparation, fallait pas allaiter pour X raisons, tout ça. Donc, tu sais, ça revient. Je vois déjà une différence entre il y a 11 ans puis maintenant. Okay. Mais il y a encore à chaque année des débats sur l'allaitement public, sur... Tu l'as vécu aussi avec ta compagnie, là. Donc,
beaucoup.
Un peu choquée parfois, alors que pourtant, ça devrait pas, là.
Mais
on a encore des pas à faire. Donc, il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui ont leur premier enfant, puis qui n'ont jamais vu une femme allaiter, qui n'ont pas été en contact avec des jeunes bébés, puis avec ce que ça représente. Donc, il y a comme... on n'a pas ce bagage-là, malheureusement.
Il y a beaucoup de femmes que justement leur mère n'ont jamais allaité. Fait que, tu sais, pour ces mères-là, des fois, c'est plus facile de dire, ben non, si vous donnez un biberon, ça va être bien plus facile, tu sais. Mais au final, ça sera pas plus facile. T'sais. Le but, c'est de, tu sais, si tu veux donner un biberon, puis si tu veux pas allaiter, c'est correct aussi. Mais dans le sens que de dire que ça va être plus facile, c'est pas vrai. Ouais. Dans le sens qu'il y a toutes ces, ils ont tous leurs inconvénients, puis ils ont toutes pas qualité, là, mais leur... le contraire d'inconvénient, là, je cherche mes mots.
Leur avantage.
Leur avantage, oui, merci. Leur avantage dans la circonstance, mais c'est pas vrai que... c'est vrai que ces femmes... Tu sais, il y en a beaucoup de femmes qui sont... Peut-être qu'il y en a aussi des mamans qui ont donné la préparation, puis que pour elles, si leur fille veut allaiter, ils vont la soutenir. Ça, je trouve ça super beau. Mais c'est ça, il y en a beaucoup peut-être que, justement, la famille, c'est plus difficile. C'est comme, pourquoi t'allaites? C'est bien trop difficile de me dire ça. Ça va être bien plus facile, tu sais.
Oui, puis mais... je précise parce que je veux pas que mes propos soient mal interprétés là, par ceux qui écouteraient, mais je suis pas anti-biberon, quoi que ce soit. Là, dans le sens que... Ce qui est au cœur, je l'ai dit tantôt, au cœur de ma vie, c'est le choix éclairé. C'est que les femmes, les personnes qui vont avoir un enfant puissent faire un choix en ayant toutes les informations, puis le choix qui leur convienne. Là, ça reste le corps de la femme, ça reste son choix d'allaiter ou non. Fait que ça, je ne vais pas aller juger une famille qui choisit de ne pas allaiter, mais je ne veux pas qu'on répande des faussetés sur l'allaitement, par contre, puis qu'on empêche des femmes qui souhaitent allaiter d'allaiter parce qu'on leur fournit pas le soutien nécessaire, parce qu'on leur donne des fausses informations, parce que...
C'est drôle parce qu'on dirait, en tout cas, de ce que je vois beaucoup, c'est qu'on dirait que maintenant, c'est comme, faut que t'allaites, t'es obligé d'allaiter, mais si t'allaites plus qu'un an, là, c'est la... Ben voyons donc pourquoi t'allaites encore. Tu sais, il y a comme cette... cette ambivalence-là qui est comme un peu n'importe quoi, parce que tu dis, OK... Pourquoi au début de ma grossesse, au début de mon allaitement, fallait absolument que j'allaite, puis que je n'étais donc pas une bonne mère si j'allaitais pas, puis que maintenant, là, je suis donc pas une bonne mère, voyons donc que j'allaite encore mon enfant.
Mais il y a ça aussi, là. Les femmes sur leur choix, là, c'est facile, la pression. Vraiment. Les côtés,
OK, en tout cas, il y a beaucoup de trucs encore à travailler sur l'allaitement. C'est pour ça qu'il faut en parler.
Exactement. C'est ça. En fait, c'était de là que j'étais partie dans mon idée là. C'est qu'il faut en parler de l'allaitement. Faut voir des femmes allaiter. Faut que les jeunes femmes aujourd'hui, puis je dirais même que nos enfants voient des femmes allaiter, puis soient au courant que ça existe, puis que c'est naturel, que ça fait partie de la vie, puis que pour briser ces espèces de malaises-là, puis de tabous, puis de fausses idées conçues sur l'allaitement. Donc oui, le podcast a un super rôle là-dedans.
Merci. On va continuer avec ton allaitement.
Moi, bien, ben oui.
Mais en fait, avec ton deuxième, c'est ça que t'as trouvé ça. Est-ce que ça s'est bien fini aussi? Comment ça s'est terminé?
Vraiment, ça s'est fini... facilement. Ça s'est comme fait un peu naturellement. Tout à coup, mon tété, puis j'étais enceinte encore là de mon troisième. Ouais. Fait que c'était... À ce moment-là, j'avais plus du tout le désir de faire un tandem éventuellement. Là, moi, c'est pas revenu, ce désir-là. J'ai l'impression que je donne tellement beaucoup à mes enfants pendant quand même, disons, ils ont tous à peu près presque 3 ans et demi d'écart. Fait que je me consacre à cet enfant-là pendant toutes ces années-là. Après ça, j'ai besoin d'une petite pause.
Tu vas au mif et
tout. Ouais, c'est ça. Pour après ça me relancer dans l'allaitement puis me consacrer à un autre nouveau-né. Là. Donc, ça s'est très bien fait.
Est-ce que tu avais des douleurs quand que tu allaitais puis que tu étais enceinte cette fois-là?
Un peu, mais j'ai attendu moins longtemps dans la grossesse pour arrêter l'allaitement cette fois-là.
OK.
Parce que ça a comme fité là, avec mon gars, que ça s'est fait un peu en douceur. Puis parce que là, j'avais plus le désir nécessairement que ça continue jusqu'à un tandem.
Oui, c'est ça.
C'est pour mes autres allaitements qui ont suivi, là, quand je devenais enceinte, là, c'était clair pour moi que j'arrêtais d'allaiter aussi. Là.
OK. Fait que là, t'as eu ton troisième enfant. Okay. Fait que là, vous devenez inférieure.
Exactement. C'est une bonne transition, ça. Fait que j'ai accouché chez moi encore avec mes deux enfants cette fois-ci, mes deux grands qui étaient présents.
Est-ce qu'ils étaient présents durant l'accouchement aussi ou tout le long?
Oui, tous mes enfants ont vu leur petit frère naître. Ça aussi, je trouve que c'est... Ben, moi, c'est parce que j'étais à l'aise avec ça, là. je trouve que c'est une richesse que je leur ai transmise parce qu'ils ont vu à quoi ça peut ressembler un accouchement. Oui. Une image autre que ce qu'on peut voir comme scénario de panique dans les films, des fois. Là.
Exact. Ça, je trouve tu veux-tu en parler de ça? Parce que moi, je trouve ça tellement intéressant. Là. On débute de l'allaitement, mais c'est pas grave, dans le sens que c'est de la maternité.
Ben, je sais pas exactement qu'est-ce que tu veux que je dise.
Mettons, moi, j'en parle que j'aimerais ça que mon garçon soit là à l'accouchement. Tout le monde s'en va, mais voyons donc, qu'est-ce que tu vas y faire vivre? T'sais, c'est l'horreur, là. Il va me déranger, il va être désagréable, ça va être la torture pour lui de voir ça, là.
Ben, le premier point, je trouve, le plus important, si on choisit que nos enfants assistent à la naissance et qu'ils sont d'accord, parce que c'est toujours bien de leur en parler aussi puis de voir comment on le file, on connaît nos enfants en général, c'est d'avoir une personne ressource, en fait une personne qui va être dédiée à s'occuper de l'enfant pendant l'accouchement, autre que le conjoint là.
Oui.
Fait que moi, nous autres, on avait fait appel à une amie de la famille qui était venue, puis son rôle c'était juste de s'occuper de l'enfant ou des enfants, dépendamment de ce qu'elle en a combien. Quand j'accouchais chez moi à ce moment-là, les trois derniers accouchements étaient à la maison, donc c'était facile pour eux de jouer dans la maison, de faire leurs affaires, de venir me voir de temps en temps s'ils voulaient. Puis, tu sais, j'ai pas des longs accouchements. Moi, j'ai des accouchements très intenses, mais assez rapides, là. Donc, on n'avait pas pour une nuit complète, puis ça a donné que j'ai accouché souvent de jour. Donc, les as se sont un peu alignés pour que ça fonctionne bien. Puis je leur avais toujours demandé avant, pendant la grossesse, là, s'ils voulaient être là pour le moment de la naissance. Puis bien sûr, ils m'ont dit oui, mais je leur ai toujours laissé une porte de sortie que si le jour même, ils ne filent pas comme ça, ben qu'ils restent avec la personne qui est là pour s'occuper d'eux, qu'ils ne sont pas obligés de venir dans la chambre. On leur dit là, que le bébé est sur le bord de naître, puis ils choisissent s'ils viennent ou pas. Parfois, ils sont venus, tous les enfants, pour le moment de la naissance. Puis, moi, je trouve que c'est une super expérience. Là. Ils voient tout de suite leur petit frère. Puis, ils ont pu voir, c'est ma fille qui a coupé le cordon de mon deuxième avec l'aide de ma femme. Tu sais, on voit à chaque fois un peu leur niveau d'implication. Ils ne sont pas restés traumatisés.
Ah, c'est ça!
Des fois, c'est ça que les gens ont peur, là, mais non, ils ne sont pas restés traumatisés. T'sais, pour eux, un accouchement, ben c'est ça, là. C'est d'être à la maison, puis ça se fait naturellement. Puis oui, maman, elle fait des sons, puis elle crie, puis elle se plaint, là, mais sinon, ils ont vu un placement, ça ressemble à quoi?
Ils n'étaient pas inquiets de te voir dans cet état-là, mettons?
On s'était préparé à l'avance. Okay. On avait fait des scénarios. Je me mettais à... Faut pas avoir peur du ridicule, là. Je me mettais à quatre salons, je faisais des sons comme à l'accouchement, puis on a regardé des vidéos ensemble aussi.
Okay.
Il y a le livre « Ma mère, c'est la plus forte », là, qui est vraiment génial pour ça, qui se prête bien à un scénario d'accouchement à la maison ou en maison de naissance. Puis, fait qu'on l'a regardé ensemble. Tu sais, c'est des choses qu'on a abordées beaucoup pendant la grossesse, donc qui étaient prêts au moment de l'accouchement. Mais par contre, moi, je suis sonore là, au moment de la poussée. Comme je disais, mes accouchements sont intenses, puis j'ai comme besoin de l'exprimer fortement, puis je me suis pas... j'aurais pas pu m'empêcher de faire des sons parce que les enfants sont présents, là. Ça aurait pas été... Donc, je sais que mon deuxième, à mon troisième accouchement, il m'en reparle des fois quand, à un moment donné, j'ai lâché un cri puis que ça l'a impressionné. Mais tu sais, ils sont pas restés marqués de ça, puis ils ont été rassurés par la personne qui était là, puis qui était à côté de moi, puis tu sais, c'est normal, là. C'est pas une expérience qui a été traumatisante pour eux autres, là.
Puis pour toi, est-ce qu'il venait te, je vais dire, déranger dans ton mindset un peu?
Pas beaucoup. On dirait que naturellement, il venait un peu au début, quand c'était encore mollo, il venait me voir, tout ça, puis c'était cute, là, ma fille qui m'apporte un petit verre d'eau, puis des choses comme ça, tu sais. Puis quand ça devenait plus intense, en général, il se tenait un petit peu plus en retrait, il jouait ailleurs dans la maison, tout ça, puis il revenait plus pour la sortie du bébé. Là. C'est arrivé qu'il y en ait un qui soit venu dans la chambre un petit peu, puis repartir, là, mais rien qui m'a dérangé.
J'avais besoin de ton espace, sûrement.
Peut-être, puis je l'aurais nommé si jamais ça me convenait pas aussi, là. Je l'aurais dit, hey, là, j'aime mieux que les enfants soient plus loin. À un moment donné, j'étais allée dans le bain à mon troisième accouchement, puis mon plus jeune à ce moment-là, il est venu me voir sur le bord du bain, tu sais, mais c'était comme naturel, là, il allait, il venait, puis c'était pas quelque chose de dérangeant. Je pense que les enfants, tu sais, pour avoir assisté à beaucoup d'accouchements avec des enfants présents, en général, les enfants sentent que c'est différent de d'habitude, puis ça se manifeste un peu dans leur comportement. Puis sinon, ben, si jamais ça marchait pas du tout, ben, faut toujours avoir la possibilité que la personne, tu sais, parte avec l'enfant.
Oui.
C'est ça, qu'elle fasse autre chose si ça convient plus, là. Mais j'ai vu plusieurs accouchements la nuit où est-ce que les enfants se réveillaient juste avant la sortie du bébé. Fait que là, il y avait des petites faces qui apparaissaient dans le cadre de porte, juste au moment que le bébé naissait. Oh. On dirait qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe, mais ça, c'est arrivé plusieurs fois lors d'accouchement.
C'est vrai?
Ouais.
Wow, je trouve ça tellement beau, là, je trouve ça, tu sais, moi, c'est un de mes désirs qu'il faut que je jase, parce que mon chum, il est pas super à l'aise avec ça, mais, tu sais, j'ai beaucoup de ma famille aussi qui, tu sais, sont moins s'acheter maison de naissance ou ces trucs-là, mettons, là, mais je trouvais ça tellement, je trouve ça cool que tu m'en parles, parce que, justement, tu sais, j'avais pas d'expérience, pis tu sais, de ce que j'entends, de moi, t'es comme, là, tu vas les traumatiser, nanana, pis je suis comme, il me semble, ça pourrait être beau, tu sais, ça pourrait, comme, justement, tu sais, il soit là à la naissance de son frère, ou quelque chose comme ça. Fait que merci tellement d'en parler. pis tu sais, ça aussi, c'est un sujet que, mettons, qu'on parle pas, tu sais, que...
Non, beaucoup, effectivement. Ouais, moi, j'avais l'occasion d'en parler avec les familles, comme ça, je femme, là.
Oui, c'est ça. Ben, c'est plus en maison de naissance qu'on voit ça, là, que...
Quand on est hospitalier, des fois, c'est plus difficile. Ouais. C'est pas normal, c'est dans nos droits quand même, mais c'est plus difficile parce que le milieu s'y prête un petit peu moins. Tu sais, si l'enfant veut pas dans la pièce, il va où? C'est un milieu un petit peu plus impressionnant aussi pour un enfant.
Hôpital,
là, même si on essaie de rendre ça chaleureux un peu. Là. Donc, ça, j'ai pas... moi, j'ai pas assisté à des accouchements à l'hôpital où il y avait des enfants de présence.
Non, c'est ça. Mmh. C'est plus à la maison ou... En maison de naissance aussi.
Oui, en maison de naissance aussi, c'est arrivé.
Oui, c'est ça.
Voilà, ouais.
Merci d'en parler. Fait que ton troisième, il est né avec son frère et sa soeur.
Oui, sa soeur qui était là. Pour lui, on est retourné au bébé à petite bouche.
Là, t'avais ton expérience.
Ouais, c'est ça. Là, j'avais mon deuxième allaitement qui avait tellement bien été. Puis là, je me disais, ah, ben là, ça va être encore ça, tu sais.
Ça fait
la prise du sein qui est pas optimale. Puis, mais tu sais, correct parce que j'ai de l'expérience. Puis, tu sais, une production de lait bien correcte. Puis tout ça. Fait que, tu sais, ça compense un peu. Mais on n'est jamais arrivé à avoir une super prise du sein, je dirais.
OK.
Puis, mais tu sais, pas assez pour que j'aille vraiment des gerçures. Mais à 2 mois post-natal, j'ai eu mon retour de couche, ce qui m'arrivait jamais aussi tôt que ça d'habitude.
Okay.
Je me suis dit, c'est quoi, c'est-tu mes hormones qui ont baissé? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'avais l'impression d'avoir les seins vides, tu sais, putain de lait. C'était vraiment inhabituel pour moi. Puis j'ai demandé à ma sage-femme, on avait officiellement terminé le suivi, là, je pense, la semaine d'avant, mais j'ai demandé, écoute, pourrais-tu repeser mon enfant? Il me semble que j'ai un petit doute.
Ouais.
Fait qu'on a fait une pesée, puis on était à 6 grammes par jour, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose.
OK.
Ça coïncidait avec mon impression là, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Tout à coup, ma production de lait avait baissé drastiquement, probablement a posteriori, parce que mon bébé n'avait jamais bien stimulé mon sein.
OK.
Bonne prise, puis tout ça. Donc, s'en est suivi consultation avec une consultante en lactation... de la dompéridone. J'ai pris de la dompéridone pour la première fois pour augmenter la production de lait à mon troisième allaitement.
C'est fou ça, tu sais, tes deux premiers, ça, comme si de rien n'était, la production était super bonne, puis le troisième, sûrement parce qu'il n'était pas assez stimulé au final, tu sais.
Exactement, puis finalement, là, au fil du temps qui a passé, il y a toujours eu des difficultés, cet enfant-là, avec tout ce qui touche sa bouche.
OK.
La prise du sein, l'allaitement a été difficile, mais là, quand on est arrivé à 6 mois, puis quand il y a l'introduction des aliments, ça fonctionnait pas pantoute. Il était hyper sensible aux textures. On avait consulté en ergothérapie à ce moment-là.
OK.
Qui avait comme diagnostiqué une hypersensibilité orale.
OK.
Qui allait, tu sais, justement, le mamelon qui va un peu trop loin dans la bouche, la nourriture, les textures, tout ce qui touchait sa bouche, là, il voulait pas là, que ça rentre dans sa bouche. Donc, ça venait expliquer quand même plusieurs choses.
Oui.
On a fait un exercice un peu de désensibilisation. On avait eu, là, il y avait des suivis de poids, il y avait des référés en nutrition, j'avais accepté d'y aller pour tomber finalement sur une nutritionniste hyper culpabilisante, là, qui calculait les milligrammes de toute chaque affaire dans tout ce qu'il mangeait, puis ça n'avait juste aucun sens. J'avais fait une recette, genre un gruau avec des raisins secs humidifiés dedans, puis oh mon Dieu, il pourrait s'étouffer, c'est ben trop dangereux, puis ça, un discours complètement décourageant, là. Fait que bref, j'étais pas retournée la voir. Elle avec mes propres conseils en nutrition, puis ceci dit, j'apprécie beaucoup le travail des nutritionnistes, là. Je pense que j'ai vraiment mal tombé, là.
Oui.
Mais ça a été assez difficile, tous ces suivis-là. Puis quand il est arrivé à 10-11 mois environ, là, je me suis mis à avoir vraiment des blessures au sein. Alors qu'avant ça, j'en avais pas.
Ah ouais.
Je me disais, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, d'habitude, c'est au début, les blessures, puis après ça, ça...
Oui, c'est ça?
Ouais, donc là, j'ai consulté encore une fois une consultante en lactation qui a trouvé que son frein de lèvre supérieure, la petite peau qui rattache de la lèvre, tu sais, on parle souvent du frein de langue, mais là, c'était le frein de lèvre qui était un peu court, fait que j'ai accepté d'aller faire une frénectomie. Fait que ça a été cautérisé, là, son petit... ça a été coupé son petit frein. Je peux pas ça dire que ça a fait une différence majeure tant que ça. C'était comme un essai parmi d'autres choses.
OK.
Puis j'ai continué l'allaitement, mais ça a été un allaitement douloureux pour la suite, là.
Est-ce que tu as pensé arrêter l'allaitement rapidement?
Plusieurs fois. Je me donnais des petits objectifs, puis là, j'étais rendue à mon objectif. Puis là, je me redonnais un autre petit objectif. Je pense que c'était tellement important pour moi, l'allaitement. Je me sentais tellement démunie de penser que je pourrais pas allaiter, parce que pour moi, c'est ma façon de répondre à tous les besoins de mon enfant. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire la nuit quand il se réveille? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, alors, si je sors quelque part, puis je sais que ça se fait, là. Il y a plein de parents qui n'allaitent pas, là. Mais pour moi, là, c'était comme une montagne. C'était quelque chose que je voulais pas, là. Je voulais
c'est tellement... ton troisième enfant aussi, fait que tu le fais à tes deux premiers. Fait que ton troisième, tu te dis, ça va être ça, tu sais.
Mais j'étais frustrée, je pense. Okay. Pas contre mon bébé, là, mais de me dire, pourquoi mon troisième allaitement? Puis à ce moment-là, je pensais que ça serait mon dernier enfant aussi.
Okay.
En plus, il y avait comme un double deuil de dire « Eh, en plus, c'était mon dernier allaitement, puis là, je pourrais même pas le vivre comme je voulais. » Mais j'ai quand même continué d'allaiter jusqu'à à peu près 2 ans, un petit peu après son 2 ans au final, alors que je pensais arrêter beaucoup avant ça. Puis entre-temps, il y a eu une pandémie, il y a eu... on a eu des défis multiples, honnêtement, avec cet enfant-là. Quand je disais que tout ce qui touche sa bouche, là, ben, il y a des difficultés de langage, mon enfant, en orthophonie pour ça. Il y a tout ce qui a touché sa bouche, là, il y a des défis avec ça, pour quelle raison. C'est un enfant, des fois je dis un enfant plus, là, il est hypersensible. On a vécu énormément d'intensité avec lui, encore juste, il y a eu 4 ans l'automne dernier, là, puis ça s'est apaisé un peu juste à partir de ce moment-là. Là. Disons que les dernières années ont été intenses.
Oui, c'est ça. Avec deux autres enfants.
Là, il n'y a pas de diagnostic, là, souvent, c'est plus à l'âge scolaire, on verra. Puis, tu sais, il est à la fois hyper brillant, là, cet enfant-là. Il a un imaginaire extrême, je dirais. Tu sais, c'est comme un petit soleil, là. Il est très lumineux quand on regarde ses beaux côtés. Puis là, vu que ça va mieux avec lui ces temps-ci, je le redécouvre sous un jour merveilleux. Mais ça n'a pas été facile. L'allaitement, ça a comme été le début de quelque chose, mais tout le reste autour, là, ça fait du sens que l'allaitement a été difficile parce que toute sa sensibilité, tout ça.
C'est ça. Ça son nom, c'est quoi?
C'est Florent.
Florent, hein? J'adore.
C'est beaucoup d'apprentissage comme parent avec un enfant comme ça.
Puis, vous avez décidé quand même d'en avoir un quatrième?
Ben, il y a un quatrième, oui, qui est arrivé finalement, puis là, qui est vraiment le dernier. Mon firme, il n'y en aura pas d'autre. Il y a 18 mois prochainement, là, cet enfant-là. Il s'appelle Émile. Puis, cette grossesse-là, en fait, tout a été différent, finalement, à cette grossesse-là. J'ai été au repos à partir de 14 semaines, parce que j'ai eu des gros saignements. J'étais paniquée, j'étais hyper stressée, je voulais vraiment pas perdre cet enfant-là. ça a été vraiment quelque chose. Puis j'ai cessé l'allaitement de Florent là, en début de cette grossesse-là.
Comment ça a été ça, l'arrêt? Est-ce que pour lui, c'était pas une délivrance? Parce que s'il aimait pas, s'il était super hypersensible, ça a-tu été super facile justement à cause de ça peut-être?
Ça a quand même bien été parce que effectivement, ça a jamais été un fan de l'allaitement. Puis... Puis de toute façon, j'étais tellement rendue là. Ça faisait déjà plusieurs fois que je repoussais mon objectif, là. Fait que c'est... Pour moi, c'était quand même un soulagement aussi d'arrêter complètement, là. Fait que je voulais vraiment me rendre à 2 ans, là, même si d'habitude, j'allais être plus longtemps, je voulais vraiment me rendre là, puis je suis contente de m'être rendue là, mais, tu sais, c'est... Disons que ça a demandé beaucoup de persévérance.
Oui, c'est ça. Mettons que c'était comme un bon 2 ans, là. C'était difficile, fait que tu l'as mérité, ton 2 ans, là.
Puis, fait que là, mon 4e, c'est ça, c'était une grossesse plus stressante. Puis moi-même, j'étais plus anxieuse, on dirait, cette grossesse-là. Sûrement à cause de ce que j'ai vécu, là, le petit décollement, ouais. Qui a fait des saignements, puis j'étais au repos. Après ça, je me suis mise à m'inquiéter plus facilement pour plein de choses. Puis je pense que ça m'a suivi un petit peu par après, dans les premiers mois de vie de mon bébé aussi. Okay. C'est sûr que j'avais l'expérience aussi de mon 3e, là, qu'à 2 mois, il s'est mis à plus prendre de poids, ma production de lait qui a baissé, tout ça. Fait que j'étais inquiète que ça se reproduise.
Ouais.
Lui aussi, il est né à la maison, un accouchement rapide et intense, avec ses grands frères et sœurs autour. Puis l'allaitement, il a bien commencé, celui-là. Okay. La poussin était bonne, tout ça. J'ai eu, encore un peu de réflexe d'éjection dysphorique, là. Ça m'a suivi mes 3 allaitements, mais ça... pas majeur, là. J'apprenais, à ce moment-là, j'avais appris à vivre avec, là.
Est-ce que le fait, mettons, que la prise était bonne, tout ça, ça t'a comme un peu soulagé?
Ben,
au début, oui. Plus ou moins, vu que t'étais déjà stressée de tout ça, là?
Ça m'a soulagée, j'étais plus confiante, mais à chaque fois qu'il y avait une pesée qui s'en venait, j'avais peur qu'on me dise que, ah, ben là, finalement, il prend pas assez de poids.
Mm.
Puis, comme de fait, à partir de son 2 mois à peu près, il s'est mis à avoir un gain de poids limite.
OK.
Mais là, j'ai pas pris de dompéridone cette fois-là. C'est pas devenu aussi épais qu'à mon 3e. Puis, j'étais confiante de ma production de lait à ce moment-là, là, après rendu au 4e allaitement. Puis, j'avais pas l'impression d'avoir les seins vides comme à l'autre, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'avais persévéré en optimisant le plus possible les tétés, là. Puis moi, j'ai toujours été très active dans mes congés, pendant mes grossesses, là, mes retraits préventifs, dans le sens que je me suis impliquée auprès de mon association professionnelle. Je faisais toutes sortes de réunions avec un bébé au sein, là, pendant mes congés de maternité. Fait que ce bébé-là m'a suivi partout. Il m'a suivi dans les dernières négos des sages-femmes. J'étais au ministère avec mon bébé au sein pendant qu'on négociait, puis tout ça. Fait que... Mais je l'ai eu au sein beaucoup, 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 par contre. Vraiment beaucoup. Puis, à posteriori, sûrement qu'il y a quelque chose au niveau de sa bouche, soit un frein de langue qui n'a pas été détecté ou quelque chose qui fait que, quand même, il a rushé un peu pour aller chercher tout le lait qu'il avait besoin.
OK.
À partir du moment où il s'est mis à manger, tout ça, ben là, ça paraissait plus au niveau de son poids, sauf que... J'ai eu, à partir de son 14 mois, donc l'automne dernier, j'ai eu un retour à nouveau des blessures au sein. Ce que je n'avais pas eu pendant mon 14 mois d'allaitement. Là.
Fait que c'est ça?
Un mauvais souvenir de mon 3e allaitement qui me revenait. Là. Puis c'est ça, j'ai consulté une consultante en lactation. Puis là, essayer d'aller évaluer un frein de langue, mettre les doigts sans se faire croquer, parce que mes enfants, ils ont plus de dentition à 1 an, eux autres. Là. Ils ont plus leurs dents, les dents de 3 mois à 1 an, là, tu sais. C'était comme impossible d'aller bien évaluer. Fait qu'au final, j'ai pas eu tant de solutions à part de diminuer drastiquement l'allaitement, ce qui est pas facile encore là pour moi. Disons que mon conjoint a pris un peu les nuits, puis il a beaucoup aidé dans cette situation-là. Il était très présent. Puis le fait d'avoir diminué les tétés au fil... Tu sais, je résume, là, ça s'est fait sur quelques mois, disons, là, que j'ai, disons, enduré de la douleur, puis qu'on a diminué les tétés, puis tout ça. Ça a permis à mes seins de guérir.
OK.
Il a recommencé, tu sais, un peu plus à téter, là. Il y a eu quelques nuits difficiles où je l'ai rendormi au sein, des choses comme ça. Puis là, on réussit à avoir une tétée qui a de l'allure, là. Tu sais, je n'ai plus de blessures. Ma production de lait a beaucoup diminué, mais je fais comme un petit allaitement... d'appoint, là, pour l'endormir de temps en temps, puis pour des petits moments de réconfort, puis ça fonctionne, là. J'ai réussi à retrouver des tétés qui sont pas douloureuse. Donc, cet automne, je passais par une phase où j'ai eu peur que mon dernier allaitement.
Oui, c'est ça.
Puis là, je suis contente de voir que, ben, ça fonctionne encore un petit peu. Ça sera pas, tu sais, l'allaitement extraordinaire dont j'aurais rêvé, là. Fait que j'ai vécu ça de
l'émotion. Puis comment tu te sens face à tout ça maintenant?
Pardon?
Comment tu te sens face à ça, justement, toutes ces... Tu sais, comment... Qu'est-ce que tu ressens dans ça?
Ben, c'est... Tu sais, je suis fière d'avoir traversé tout ça. Je trouve que ça me donne quand même de... Comment je dirais... De l'expérience, tu sais, pour pouvoir soutenir les familles, parce que j'ai vécu beaucoup de choses différentes au fil de mes allaitements. Et puis, je suis consciente que, tu sais, quand on peut pas dire que l'allaitement, c'est facile, que ça se fait tout seul, que c'est... Tu sais, oui, pour certains bébés, pour certaines femmes, mais parfois, ça, en fait, souvent, ça demande quand même un peu d'ajustement pour le parent qui allaite, pour le bébé, pour, tu sais, à différentes étapes de vie aussi, là, l'entrée à la garderie, l'introduction des aliments. Il y a toujours, tu sais, un petit quelque chose. Là. Il y a un rhume qui arrive, oups, ça bouleverse un peu le rythme d'allaitement, les dents. Le... Fait qu'il y a toutes sortes d'étapes à traverser. Puis c'est un peu pour ça aussi mon désir, là, d'avoir un service de relevaille, puis d'aller, tu sais, je veux vraiment redonner cette expérience-là aux familles, parce que toute la différence d'avoir une personne ressource à qui se référer, d'avoir du soutien, d'avoir de pouvoir se concentrer sur l'allaitement pendant que quelqu'un nous allège du reste autour, de pouvoir savoir justement là, mon bébé s'est mis à mordre parce qu'il fait des dents, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, d'avoir quelqu'un à qui poser ces questions-là. Tu sais, tant qu'on n'aura pas le fameux réseau, le village autour pour de femmes allaitantes et de pour nous donner des modèles puis nous soutenir, ben ça prend un peu ce genre de service-là.
Oui! Il est tellement beau ton service, pour vrai. Tu sais, je le connaissais... Tu sais, je te voyais un peu sur les réseaux sociaux, je trouvais ça cool, mais qu'est-ce que c'était exactement? Tout ça, des fois, c'est difficile, des fois, de savoir ça, que ça existe aussi, là.
Oui, ben oui.
Oh, c'est tellement beau. Fait que là, avec ton... Fait que là tu l'allaites encore, dans le fond, fait que...
Oui, je l'allaite encore. On verra, j'ai pas d'objectif là, cette fois-ci. J'ai toutes sortes de choses, fait que on verra où ça nous mène. Là, ça fonctionne présentement, puis ça me plaît bien, puis lui aussi, là, ça répond à son besoin présentement, puis on verra où ça nous mène ensuite.
Oh, wow! C'est tellement une belle histoire. Ben, une grande, très belle histoire. C'est quatre enfants, c'est fou, là, tu sais, de se dire que ces quatre enfants-là, c'est quatre allaitements très différents, puis t'es la même maman, là.
Ouais.
Tu sais, c'est un différent bébé, mais c'est... Tu sais, c'est fou quand je disais que chaque épisode est tellement différent les unes des autres, même s'il y a des problèmes qui reviennent. Mm-hmm. Mais juste là encore, c'est quatre allaitements, puis c'est quatre histoires différentes, tu sais.
Ouais. Comme quoi, à chaque fois, on peut pas se dire, ben... C'est ce que je découvre, en fait, rendu à quatre enfants, là, que... T'sais, on a un enfant, puis après ça, on a le deuxième, puis on se dit, ah, mais là, je sais comment ça marche, tu sais. Ben, finalement, non. Parce que c'est un autre enfant, puis c'est un autre allaitement, puis une autre expérience. Puis là, on a le troisième, puis on se dit, bon, ben, tu sais, on va gérer ça. Ben, non, finalement, il nous arrive quelque chose d'autre. Puis à chaque enfant, c'est du nouveau. Là, mon quatrième, là, il est complètement différent aussi dans sa personnalité. Donc, on apprend tout le temps, puis il faut vraiment, je pense, lâcher prise sur le fait qu'on contrôle pas ça. On suit nos enfants, puis en fait, ils nous font grandir pas mal plus qu'on les fait grandir.
Oui, hein?
Ouais.
J'y vais avec ma dernière question, celle que tu ne te rappelles pas, mais que tu vas te rappeler, je suis sûre. Qu'est-ce que tu dirais à la Caroline du début qui vient d'avoir son premier enfant, après avoir vécu toute cette expérience-là? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Dans les premières semaines de douleur, là, je lui dirais... Je lui dirais qu'il y a du beau qui s'en vient.
Mm-hmm.
Beaucoup d'efforts au début, les premières semaines, mais quand c'est bien parti après ça, là, c'est tellement extraordinaire d'avoir la chance de avoir ce contact-là avec son bébé. Puis ce que je dirais aussi, parce que la jeune Caroline, inexpérimentée, a expérimenté toutes sortes de choses pour... aider son enfant à dormir, pour devrais-tu faire telle technique, j'aurais-tu fait telle affaire, tout ça, ben, de juste se faire confiance, d'écouter son bébé, d'écouter sa petite voix intérieure, puis de ne pas avoir peur. Si on sent que ben, c'est plus facile d'endormir son enfant au sein, c'est correct aussi. Là. Ça ne fera pas 4 ans, il va vouloir s'endormir au sein, mais pas du tout. T'sais. C'est ça, de se faire confiance avant tout. Puis c'est ce que j'espère apporter aussi aux familles, de la confiance. Là.
Oh, tellement. Oh, c'est beau. Merci tellement. C'est tellement une belle histoire. Puis on a parlé tellement de beaux points. Là. Vraiment, là, fait que merci beaucoup, beaucoup.
Merci d'avoir donné l'occasion de partager ce récit-là. C'est la première fois là, que je mettais toute mon histoire d'allaitement.
Oui, hein?
Une étape en arrière de l'autre, je fais ouf, quand même, c'est toute une expérience.
C'est là que tu vois que t'as passé à travers vraiment beaucoup d'étapes et de chemin qui est de montagne, là.
Ouais, mais que je repasserai à chaque étape, ouais.
Merci encore beaucoup, Caroline, d'avoir participé à cet épisode, de nous avoir conté tes 4 suivis d'allaitement. C'était vraiment incroyable. On a un peu divagué dans divers sujets, mais pour vrai, je crois que ça a été un épisode avec tellement de ressources, parce qu'on parle beaucoup d'un sujet que même moi, je n'avais jamais entendu parler. Donc, j'espère que ça a aidé quelques femmes qui ont écouté l'épisode. J'espère que ça t'a fait du bien. C'est ça l'important du podcast. Je veux que ça te fasse du bien. Donc, merci encore à Caroline et merci à vous d'écouter ce podcast. C'est tellement apprécié. Je vois le nombre de vues et d'écoutes par semaine qui se font et c'est juste incroyable à quel point je suis honorée de voir que les gens continuent d'écouter ce podcast et aiment mes épisodes. N'hésitez pas à m'écrire. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'écrivent, surtout après quelques épisodes et qui me disent « Oh wow, comment ça me fait du bien cet épisode, ce podcast-là. Ça me fait tellement chaud au cœur. Et si toi aussi t'as envie de raconter ton histoire, je suis toujours à la recherche de nouvelles mamans qui veulent raconter leur récit d'allaitement. Peu importe ce qui s'est passé dans ton récit, je pense que ça peut faire du bien un petit peu à certaines mamans. Donc, je te souhaite une belle semaine et je te souhaite plein de bonheur lacté.
J'espère que tu as apprécié cet épisode. Si le cœur t'en dit, partage-la sur les réseaux sociaux. Mets un 5 étoiles. Ce petit geste nous aide à faire connaître ce podcast et notre entreprise. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux nous suivre sur Facebook et sur Instagram pour connaître nos produits et savoir la sortie des prochains épisodes. Merci encore pour ton écoute et je te souhaite tout plein de petits bonheurs avec ton ou tes trésors.